DW. Le journal. Éric Topona.
Jeudi 25 avril 2024, bonsoir et heureux de vous retrouver en direct sur les antennes de la DW pour le journal du soir, 17h en temps universel, 2h de plus ici en Allemagne. Dans l'actualité, journée mondiale contre le paludisme, la maladie est à l'origine de milliers de décès, notamment en Afrique. Illustration au Burkina Faso. De nouvelles exactions au Burkina Faso dénoncées par Human Rights Watch qui parle de crimes de guerre. Human Rights Watch qui demande aux autorités d'éclaircir ces exactions. Au Mali, une requête sur l'augmentation des avantages et indemnités alloués aux membres du Conseil national de transition, le CNT. Ces avantages ont été retoqués par la Cour constitutionnelle. Réaction des acteurs politiques maliens à suivre. La RDC accuse Apple d'utiliser des minerais provenant des mines congolaises exploitées illégalement. C'est pourquoi elle demande dans la RDC, a mandaté deux avocats français qui ont mis en demeure l'entreprise multinationale américaine. Et puis on va parler également dans ce journal du dérèglement climatique dans le monde et en Afrique avec pour conséquence de fortes canicules. Le monde en bref avec Kosivi Tiassou. Kosivi, bonsoir.
Bonsoir Eric et Topona, bonsoir à toutes et à tous. Les dirigeants de 18 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Brésil, ont appelé ce jeudi dans un communiqué commun à la libération immédiate de tous les otages retenus par le Hamas. L'accord sur la table pour libérer les otages permettrait un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza, affirme le communiqué diffusé par la Maison-Blanche. Un tel accord permettrait aussi de faciliter la livraison accrue de l'aide humanitaire indispensable et pourrait mener à une véritable fin des hostilités, relève le test. D'après l'ambassadeur palestinien au Caire, Diab Alouf, de 80 000 à 100 000 Palestiniens sont arrivés en Égypte depuis le 7 octobre dernier, début du conflit opposant le Hamas et Israël à Gaza. Le point de passage de Rafah est en théorie l'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas sous le contrôle direct israélien. Israël a encore bombardé aujourd'hui plusieurs secteurs de la bande de Gaza, comme la ville de Rafah, où l'armée se prépare à une opération terrestre, malgré les mises en garde de la communauté internationale.
Et les campus américains en proie à des manifestations de plus en plus tendues contre justement la guerre à Gaza.
De Los Angeles à New York, d'Austin à Boston, en passant par Chicago et Atlanta, les mouvements d'étudiants américains pro-palestiniens grossissent l'heure en heure et certaines des universités les plus prestigieuses au monde sont aussi concernées, telles que Harvard, Columbia ou encore Princeton. Des centaines d'arrestations, des policiers anti-émeutes face à des étudiants qui ne décollèrent pas. La tension reste vive dans la journée sur les campus américains. Les scènes à travers le pays se suivent et se ressemblent. Des élèves et étudiants dénoncent le soutien militaire des États-Unis à Israël et la situation humanitaire dans la bande de Gaza.
De nouvelles sanctions de Washington contre l'Iran.
Les nouvelles sanctions ciblent de nouveau l'industrie des drones militaires en parallèle à des sanctions similaires prises par le Canada et le Royaume-Uni près de deux semaines après l'attaque de Téhéran contre Israël. Ces sanctions économiques visent plus d'une douzaine d'entités, d'individus et de navires qui ont joué un rôle central dans la fabrication et le financement de la vente clandestine de drones iranien pour le compte du ministère iranien de la Défense, a annoncé le département américain du Trésor.
Et on reste aux États-Unis, Kosivi Tiassou, une cour d'appel de New York a annulé la condamnation de Harvey Weinstein.
L'ex-producteur star d'Hollywood, Harvey Weinstein, avait été condamné à 23 ans de prison à New York en 2020 pour viol et agression sexuelle. La cour d'appel de New York a ordonné un nouveau procès, un revers pour le mouvement MeToo. La cour a estimé que des rumeurs de procédure avaient été commises, des erreurs de procédure avaient été commises durant le procès à New York d'Harvey Weinstein, qui a été séparément condamné à la prison à Los Angeles. Sa condamnation à New York avait constitué une victoire pour le mouvement MeToo, mais selon l'une des des juges de la Cour d'appel des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les personnes plaignantes avaient notamment été admis de façon erronée.
Merci Kosivi Tchassou et j'ajoute que les États-Unis ont salué aujourd'hui l'installation d'un conseil présidentiel de transition en Haïti, qualifiant cette étape de cruciale pour l'organisation d'élections dans ce pays. Haïti plongé dans une profonde crise politique et sécuritaire. Vous écoutez le journal du soir, 17h05 en temps universel et c'est aussi la même heure à Ouagadougou.
DW.
Au Burkina Faso, les femmes enceintes sont les plus exposées au paludisme. Je l'ai rappelé dans le sommaire, aujourd'hui c'est la journée mondiale contre donc, le paludisme et c'est une cause majeure de mortalité maternelle. Des stratégies de lutte contre, comme la gratuité des soins aux femmes enceintes ont été mises en place au Burkina Faso. Mais Charles Bako, ces mesures ne suffisent pas du tout à éliminer la maladie.
Les femmes enceintes sont en effet les plus exposées au risque et à la vulnérabilité face au paludisme. Des femmes qui sont généralement pauvres, victimes de violences et parfois d'injustices sociales relatives au mariage. Dr Aissata Bari, du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme, explique que la pauvreté de ces femmes est l'un des principaux facteurs de cette mortalité féminine.
En effet, il y a une combinaison de facteurs biologiques et de facteurs socio-économiques qui rendent ces femmes vulnérables au paludisme. Pour les facteurs biologiques, il faut savoir que la grossesse affaiblit les défenses naturelles des femmes contre le paludisme, ce qui les rend plus vulnérables à l'infection. Il y a aussi les mauvaises conditions de vie. Les femmes pauvres ont souvent des logements inadéquats avec de l'eau stagnante, créant des terrains de reproduction pour les moustiques vecteurs du paludisme.
Pour donc accélérer la lutte contre le paludisme, l'État a multiplié ses actions. Il y a par exemple la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à toutes les femmes enceintes, des traitements préventifs et la gratuité des soins pour les femmes enceintes. Mais toutes ces stratégies ne suffisent toujours pas à éliminer le paludisme. Docteur Zangré Abel, médecin généraliste au centre hospitalier régional de Zignaré.
La majorité des femmes enceintes dans notre contexte sont situées en milieu rural, ce qui fait qu'il y a une insuffisance en ressources économiques, ce qui suppose également qu'il n'y a pas d'accès aux soins médicaux. Les facteurs socio-économiques influencent vraiment sur la conduite à tenir de ces femmes-là face au paludisme, sinon ce qui contribue à réduire la fréquentation des centres de santé. En 2023, au Burkina Faso, on a enregistré environ 500 000 cas de paludisme grave, parmi lesquels on a enregistré environ 4 200 cas de décès, dont 2 900 pour les enfants de moins de 5 ans et 37 décès pour les femmes enceintes.
Le Burkina Faso compte également sur la vaccination pour freiner la maladie. Des milliers d'enfants ont reçu en février dernier des doses du vaccin RTS.S, le premier vaccin antipaludique mis au point dans le monde. Charles Bako, Ouagadougou pour la Deutsche Welle.
Et nous restons au Burkina Faso. Human Rights Watch dénonce des exactions parmi les pires commises par l'armée burkinabé depuis 2015. L'ONG de défense des droits de l'homme accuse en effet l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont des dizaines d'enfants dans deux villages du nord du pays. C'était fin février. L'organisation soupçonne des crimes de guerre et réclame aux autorités militaires de la transition au Burkina Faso de réagir. Sandrine Blanchard.
Les faits remontent à février dernier et sont révélés ce jeudi dans un rapport publié par Human Rights Watch qui affirme que les forces de sécurité burkinabées auraient tué 44 personnes, dont 20 enfants, dans le village de Nondin, ainsi que 179 autres personnes, dont 36 enfants, dans le village voisin de Soro. Ces deux localités sont situées dans la province du Yatenga, dans le nord du pays. Pour établir ce décompte, l'ONG s'est entretenue avec des témoins des tueries. Ilaria Allegrosi cherche sur le Sahel à Human Rights Watch.
Ils nous ont décrit comment les militaires sont arrivés en convoi avec leurs véhicules en portant des uniformes de l'armée burkinabé. Ils ont décrit vraiment des scènes horribles avec des soldats qui ont fait du porte-à-porte, ont fait sortir les gens, les ont regroupés et puis ils ont ouvert le feu sur les civils, des hommes, des enfants, des femmes, des vieillards.
Les 24 et 25 février 2024, des djihadistes auraient lancé des attaques coordonnées simultanées. Le lendemain, le ministre de la Défense, Mahamoudou Sana, a expliqué sur la chaîne publique RTB que l'armée avait donc répliqué par des opérations antiterroristes couronnées de succès. Toutefois, durant cette interview à la RTB, Mahamoudou Sana n'a pas évoqué les victimes civiles des violences, y compris celles commises par les FDS. Le ministre en a toutefois profité pour rappeler sans embâge les attentes des autorités envers les citoyens.
Il faut que la population sache que désormais, il faut participer fortement à la coproduction en matière de sécurité. Il faut éviter les complicités passives ou actives. Et je tiens à souligner ici que le code pénal est clair. Tout complice est sanctionné à la hauteur, au même titre que l'auteur.
Une politique que critique Human Rights Watch qui évoque des représailles sur des civils pris en étau entre les djihadistes et l'armée. L'ONG souhaite que les autorités permettent que l'enquête avance de manière indépendante pour juger les responsables de ces violences qui pourraient bien s'apparenter à des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité.
Sandrine Blanchard, on reste dans la région du Sahel au Mali où la Cour constitutionnelle a dit non à une requête sur l'augmentation des avantages et autres indemnités des membres du Conseil constitutionnel. Les avantages et autres indemnités des membres du Conseil national de transition, le Parlement provisoire. Il s'agit notamment des indemnités mensuelles de représentation, de logement, de carburant ou encore de chauffeur pour les membres du bureau de cet organe. Comment cette annonce est-elle accueillie auprès de la population et de la classe politique malienne? Des éléments de réponse avec Mahamadou Kane, notre correspondant dans la capitale malienne.
Le 16 novembre 2023, les membres du Conseil national de transition ont voté à huis clos et à l'unanimité une loi qui fixe leurs avantages, indemnités et autres traitements. L'information n'a été rendue publique qu'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 18 avril dernier. Au sein de la population, Karambe s'est dit surpris par cette annonce. Nul n'ignore les difficultés que nous vivons actuellement. On demande la revalorisation des revenus des membres du CNT pendant que nous avons un manque d'eau, de soins adéquats, etc. Ils devraient plutôt chercher à résoudre ces différentes crises au lieu de nous proposer cela. Même réaction d'étonnement chez Zana, qui salue tout de même le courage de la Cour constitutionnelle.
Avec ce que le peuple supporte, avec le sacrifice que nous sommes en train de faire, et parler d'indemnité, vraiment ça me surprend. Des problèmes d'électricité, des problèmes de sécurité, et tout ça, c'est pas le moment de venir poser de tels actes, quoi. Mais là, la Cour constitutionnelle a pris une décision vraiment qui m'a beaucoup rassuré. Parce que là, j'ai compris qu'il y a des décideurs qui peuvent être contraires à ce qui est en train de le faire.
De sources officieuses, un membre du Conseil national de transition gagnerait entre 1 300 000 et 1 500 000 de francs CFA par mois. Pour Sekouniame Batili du RPM, l'ex-parti au pouvoir, c'est...
scandaleux quand même que les autorités décident d'aller vers cette voie, mais ça en dit long sur leur façon de gouvernance. Et c'est pourquoi ces personnes qui ne sont pas élues et qui se sont octroyées ces titres ne veulent pas qu'on aille vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas passés par la voie des urnes, ils peuvent s'éterniser au pouvoir et se donner le privilège de piser dans les fonds de l'État.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle justifie dans son article 4 la non-conformité à la Constitution et à la Charte de la Transition, la requête sur l'augmentation des avantages et indemnités. Nous avons tenté en vain de faire réagir un membre du CNT, Mahamadou Kane, Bamako, pour la Deutsche Welle.
Information en bref, 6 soldats ont été tués la semaine dernière dans l'ouest du Niger. Il s'agit bien évidemment de soldats nigériens. C'était lors d'une attaque menée par des terroristes lourdement armés selon l'armée nigérienne. L'assaut aurait eu lieu le 20 avril et a visé une position de l'opération antiterroriste. Information encore en bref, on l'annonçait déjà dans nos précédentes éditions. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président sortant de Mauritanie au pouvoir depuis 2019, a annoncé hier sa candidature pour un deuxième mandat lors de la présidentielle du 29 juin. Encore en bref, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé ce jeudi à Abidjan une aide à la Côte d'Ivoire afin d'aider le pays à lutter contre le terrorisme qui devrait, cette aide devait être validée la semaine prochaine. Vous écoutez le journal journal du soir, 17h et 14 minutes, bientôt 15 minutes, en temps universel et à Abidjan. Restez fidèles au reste de nos programmes, notamment sur notre chaîne YouTube.
Jeunesse, mode, sexualité, création artistique, défis, espoir, sans filtre et sans tabou, rejoignez-nous sur youtube.com/DWAfrique.
On va maintenant parler de l'actualité en République démocratique du Congo où Apple, la RDC qui accuse Apple France d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement et qui proviendraient de mines congolaises. Apple qui est accusé d'acheter auprès du Rwanda des minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication donc de ces produits. Et on en saura plus avec Jean-Noël Bamouzi, notre correspondant à Kinshasa, Jean-Noël Bamouzi, donc qui s'est chargé d'enquêter et de préparer un sujet sur ces accusations formulées par la République démocratique du Congo. On écoute donc son élément sonore.
Les autorités congolaises estiment que les minerais exploités illégalement dans les mines de la République démocratique du Congo sont transportés hors de ce pays, notamment vers le Rwanda, où ils seraient finalement blanchis. Les avocats de l'État congolais soulignent que le Rwanda est un acteur central de l'exploitation illégale de minerais, notamment de l'exploitation de l'étain et du tantale en RDC. Après leur extraction illégale, ces minerais sont acheminés par les bandes au Rwanda où ils sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondial, comme le précise William Bourdon, un de ses avocats.
En dépit de cette aggravation de la situation sur place, on a pu avoir accès à une documentation, comme vous d'ailleurs, très, très convaincante. Et puis enfin, il y a la critique sur le processus de certification. Vous savez, tous ces processus de labellisation, de certification, ces processus de certification sont très largement critiqués.
Dans tous les cas, pour ces avocats, la mise en demeure cible le groupe Apple à la suite de la contradiction criante entre les nombreux engagements éthiques pris par cette société et les conditions dans lesquelles ces minerais sont en réalité extraits en RDC. Mais en réalité, la question est complexe et le cas du groupe Apple n'est qu'un exemple. Plusieurs grandes sociétés utilisent des minerais en provenance de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a expliqué à la Deutsche Welle Christophe Vogel, chercheur sur les dynamiques de conflits en Afrique centrale.
Ce qui rend la chose complexe sur ce dossier de responsabilité, c'est justement que au long des chaînes d'approvisionnement, à la fois en RDC jusqu'à l'exportation, mais même au niveau international, les minerais qui sont exportés légalement et illégalement ont tendance à aussi finir par se mélanger.
Et justement, les avocats de l'État congolais envisagent d'engager dans les semaines à venir d'autres actions à l'encontre d'autres sociétés impliquées dans ce commerce. Le gouvernement de Kinshasa accuse le Rwanda de vouloir faire main basse sur les ressources minières, notamment de l'Est congolais, une des raisons pour lesquelles selon lui, Kigali soutient la rébellion du M23. Jean-Noël Bamouissé à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Et nous restons en République démocratique du Congo où la composante militaire de la MONUSCO, la mission de l'ONU déployée dans le pays, est sur le point de quitter pour de bon la province du Sud Kivu. Dans cette province, certaines communautés comme les Banyamulenge se sentent encore menacées. Ils auraient d'ailleurs préféré que les casques bleus restent encore un peu sur place. Et Wendy Bashi, hein, l'annonce du retrait de ces casques bleus a fait réagir nos abonnés sur la toile.
Sur place, en République démocratique du Congo, Jérémy, qui commente sur notre page Facebook, estime qu'aucune communauté au Congo n'espère encore des résultats de la part de la MONUSCO. Darcy, qui lui aussi est en RDC, pense plus ou moins la même chose. Cette mission de maintien de la paix faisait tout le contraire de ce que les Congolais attendaient d'elle, estime-t-il. Rodin, à Johannesburg, en Afrique du Sud, rappelle que c'est la population congolaise qui a décidé du départ de la MONUSCO. Selon lui, cette mission onusienne n'a rien produit durant toutes les années qu'elle a passées dans son pays. Par conséquent, les Congolais ont le droit d'exiger son départ. Elie se montre encore plus critique que les précédents internautes en soulignant que pour lui, les casques bleus ont trahi leur mission. Enfin, Dany pense que les missions des Nations Unies ne doivent pas seulement quitter la RDC, mais toute l'Afrique.
Wendy Bachy. Au Tchad, la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection présidentielle du 6 mai se poursuit. Les différents candidats, les 10 candidats en compétition, continuent de sillonner les provinces du pays à la conquête des électeurs. Dans un communiqué diffusé et publié aujourd'hui, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ange Ahmed Bathiré, a mis en garde les candidats à cette élection présidentielle contre l'escalade verbale à laquelle ils se livrent. Ces derniers jours, il demande à Ahmed Bathiré, il demande aux uns et aux autres de se garder des propos diffamatoires, injurieux et des attaques personnelles. Information encore en bref, près de 120 détenus se sont échappés d'une prison au Nigeria après qu'une pluie torrentielle a détruit la clôture de l'établissement. Selon les autorités du Nigeria, les fortes pluies qui se sont abattues pendant des heures hier ont dévasté le centre de détention de la ville de Suleja, dans le centre du Nigeria, près de la capitale Abuja, détruisant ainsi des bâtiments et la clôture de protection, selon donc le porte-parole des prisons nigérianes. Vous écoutez toujours la DW, 17h20 en temps universel.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Le phénomène météorologique El Niño continue à avoir des effets dans le monde et particulièrement sur le continent africain, se traduisant par des pics de chaleur mais aussi de fortes précipitations. Depuis le début du mois d'avril, l'est du continent est à nouveau frappé par des inondations meurtrières, que ce soit au Kenya, au Burundi ou encore en Tanzanie. Et justement en Tanzanie, ce sont 155 personnes qui ont péri en raison des fortes pluies. Au Kenya, on compte une quarantaine de morts, une dizaine de morts en République démocratique du Congo, et on vient de parler du Nigeria. Et des dizaines de milliers de déplacés sont également signalés, Marco Voltaire, dans ces différents pays.
El Niño est un phénomène météorologique qui se produit de manière irrégulière, tous les 2 à 7 ans, lorsque l'océan Pacifique se réchauffe et provoque une hausse des températures mondiales. En Afrique, El Niño a fait des ravages tout au long de l'année dernière et continue à faire souffrir de nombreuses régions en 2024. Ce phénomène naturel entraîne des conditions météorologiques extrêmes, allant d'inondations dévastatrices à des sécheresses prolongées, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie et l'Afrique australe étant les zones les plus durement touchés. Selon Oxfam, plus de 20 millions de personnes sont confrontées à la faim et à la malnutrition en Afrique australe. La sécheresse affecte les récoltes, avec notamment une baisse de la production de maïs. S'y ajoutent des conséquences sanitaires. Au Zimbabwe et en Zambie, les pénuries d'eau ont favorisé l'apparition du choléra et d'autres maladies liées à la qualité de l'eau. Or, des pays comme la Zambie manquent cruellement de moyens financiers pour soutenir leur population. Certains dénoncent la dette qui pèse sur les pays en développement et ne leur permet pas de donner la priorité à la crise climatique. Les mécanismes pour accéder au fonds d'aide pour les urgences climatiques seraient également à revoir. Et puis la solidarité internationale n'est actuellement pas à la hauteur. Mi-avril, une conférence des donateurs organisée sous l'égide des Nations Unies pour faire face à la crise humanitaire en Éthiopie avait certes permis de récolter 630 millions de dollars, mais la somme est loin de l'objectif initial qui était d'1 milliard.
Marco Voltaire. L'évasion fiscale coûte chaque année environ 8 milliards de dollars aux Africains, organisée en grande partie par les pays riches. Cette fraude ralentit le développement du continent. Une perte fiscale annuelle qui équivaut en effet à 15% des dépenses de santé en Afrique. Jean-Michel Boss, c'est un triste record dans le monde.
Un peu plus de 8 milliards de dollars en Afrique, c'est le montant estimé par le Tax Justice Network dans son rapport 2023 des fraudes à l'impôt sur les sociétés, aux taxes douanières et à l'impôt sur le revenu de riches particuliers. Au niveau mondial, les pertes fiscales totales subies chaque année par les États s'élèvent à près de 500 milliards de dollars et les multinationales sont en grande partie responsables du siphonnage des revenus imposables. Les multinationales échappent notamment à l'impôt sur les sociétés en transférant leurs bénéfices vers des paradis fiscaux. Or, ce sont les pays riches qui organisent ce transfert de capitaux en offrant des régimes fiscaux avantageux. Les membres de l'OCDE sont ainsi responsables de près de 80% des pertes fiscales subies par les pays du monde entier. Pour ce qui concerne l'Afrique francophone, les deux Congos sont les pays les plus touchés par ces fuites de revenus. Le poids de l'industrie minière explique l'ampleur des pertes subies par ces États en RDC. Plus de 90% des exportations proviennent ainsi de l'industrie minière. Le secteur minier est connu sur le continent pour entretenir des pratiques de sous-facturation des exportations afin de réduire le montant des taxes, mais aussi de contrebande. L'histoire des sièges vides réservés sur les vols entre la capitale rwandaise Kigali et Dubaï est devenue célèbre. Jusqu'il y a peu encore, les trafiquants les utilisaient pour transporter de l'or de contrebande dissimulé dans des bagages à main. Ainsi, quasiment la moitié des prêts de 89 milliards de dollars qui, chaque année, quittent illicitement l'Afrique concernent l'industrie minière et en grande partie le commerce de l'or.
Une enquête menée par Jean-Michel Boss et que vous retrouverez sur notre site internet www.2w.com/français avant de retrouver Fiacre Ndaïra Guidié, non, avant le jeu concours et puis le sport. Cette information en bref, 13 partis politiques et organisations de la société civile au Togo ont déposé un recours devant la Cour de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour réclamer le retrait de la nouvelle constitution du pays qui a été adoptée le 19 avril dernier par les députés togolais proches du pouvoir. La CEDEAO a confirmé à l'AFP avoir reçu cette demande de saisine déposée le 18 avril alors que des élections législatives et régionales sont prévues le lundi 29 avril prochain. Et cette information qui vient de me parvenir, on apprend qu'au Mali, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, le CSP-PSD, a changé de nom. Il devient le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, le CSP-DPA, et il sera dirigé par le chef du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, un des groupes armés du Nord, membre de la coalition à la personne de Bilal Ag Sherif. Un changement de nom qui correspond, selon plusieurs spécialistes de l'actualité malienne, à une redéfinition des objectifs des ex-rebelles du nord du Mali.
Participez à notre jeu concours. Testez vos connaissances sur les émissions de DW Afrique.
De quel continent traite la plupart des émissions de la DW Afrique? Trois propositions de réponse. 1. L'Océanie. 2. L'Afrique. 3. L'Europe. Et vous avez jusqu'au 7 mai. Le 7 mai, c'est la semaine prochaine, dans à peu près 2 semaines. Voilà, le 7 mai, pour participer à ce jeu concours. On passe au sport.
DW. Le sport. Fiacre Ndaïra Guidié.
En tennis, la 22e édition des Masters Madrid a débuté lundi. Plusieurs grands noms du tennis prennent part à ce tournoi. Mais Fiacre Ndaïra Guidié, on va ouvrir cette page des sports par les JO de l'été prochain à Paris, dont les préparatifs vont bon train, Fiacre.
Pour ces Jeux de la 33e Olympiade, 310 épreuves sont au programme en juillet prochain. Plus de 10 000 athlètes sont attendus dans la capitale française. Une occasion de partager nos valeurs, a indiqué aujourd'hui le Premier ministre français Gabriel Attal.
Dans 92 jours, le monde aura les yeux rivés vers la France. Et à cette occasion, nous aurons l'occasion, l'opportunité, je crois, dans un monde extraordinairement bouleversé, traversé par des tensions, d'envoyer un message et de partager nos valeurs d'une manière absolument exceptionnelle.
L'Afrique sera représentée dans la majorité des disciplines à ces Jeux olympiques avec de bonnes chances de médailles, notamment en athlétisme et en natation. Les JO de Paris, c'est du 26 juillet au 11 août 2024. En tennis, sachez que 96 joueurs prennent part au Masters de Madrid, dont la première phase des qualifications a été lancée lundi. Des grands noms sont certes présents, mais l'un des plus grands favoris est Carlos Alcaraz. L'Espagnol, numéro 3 mondial, a remporté le tournoi de Masters lors des deux dernières éditions en 2022 et en 2023. L'Italien Yannick Sinner, numéro 2 mondial et surtout vainqueur du tournoi de Rotterdam en février dernier, est aussi très attendu pour cette 22e édition de Masters de Madrid, ainsi que le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. L'Allemand Alexander Zverev et le Grec Stefanos Tsitsipas font également partie des favoris à ce tournoi. On suivra aussi les prestations de l'Espagnol Rafael Nadal qui revient de blessure. La finale est prévue le samedi 4 mai.